Radio Cité Genève.
Punch.
Partagez vos déclics, vos défis, vos choix autour de l'emploi.
Punch.
Pour rebondir,
repartir, réussir.
Punch.
Retrouvez Charlotte Lang et ses invités dans Punch sur Radio Cité Genève 92.2 et sur www.radiocité.ch.
Punch 92.2 FM. Nous sommes sur Radio Cité Genève aujourd'hui aux nouvelles rencontres de Brangue dans le domaine de Paul Claudel. Et ici, aujourd'hui, les studios sont dans le salon chinois de Paul Claudel, un endroit merveilleux où nous trouvons des objets qui ont voyagé avec le grand Paul. Nous sommes en compagnie de Christian Schiaretti, metteur en scène, qui était notre metteur en scène pendant toutes ces rencontres de Brangue. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, vous savez, dans Punch, on aime bien connaître les enfants. Quel petit garçon étiez-vous ?
J'étais un petit garçon d'un milieu social extrêmement démuni. J'ai été élevé à Paris jusqu'à l'âge de 17 ans sans avoir de commodité quelle qu'elle soit, c'est-à-dire ni eau chaude, ni douche, ni toilette. Voilà, dans des conditions de vie qui étaient des conditions rudes, mais nobles, parce qu'installé dans Paris, on n'était pas sur une périphérie. Donc je vivais entre Bastille, autour de Bastille, entre Bastille et République. Dans une enfance un peu stalinienne, voilà, qui était celle de la rue. Voilà, je suis un enfant de la rue, moi, vraiment. Avec une complexion familiale, hein, c'est-à-dire ma mère avait un nom, mon père avait un nom, et moi j'en avais un troisième. Je vais pas rentrer dans les détails de ma genèse, mais en tout cas, il y avait ce problème identitaire.
Un môme comme Édith Piaf?
Pas le même Paris quand même. Ça, c'est pas vraiment. J'ai pas chanté.
Oui, mais vous étiez dans la rue.
Mais oui, parce qu'on n'avait pas le choix. Je vous dis, j'avais pas de chambre. Donc, de toute façon, voilà. Donc, avec un père qui ne savait pas écrire, mais qui par contre avait un rapport extrêmement concret et beau au monde par ses mains, par l'artisanat. Voilà, et qui avait été passé par Mauthausen et qui en revenant de la guerre a décidé de devenir porte-royal parce qu'il ne voulait pas être dans une société qui numérotait ou répertoriait, puisque vous savez que les Halles étaient un lieu de non-droit dans lequel vous aviez les étudiants qui n'avaient pas de boulot, dans lequel vous aviez les réfugiés politiques et dans lequel vous aviez une population interlope assez importante.
Vous étiez dans les Halles ? Vous avez grandi là ?
J'étais à Bastille, mais vous savez, les Halles de Paris, c'était les Halles de Baltard, mais ça allait bien au-delà. Vous aviez, ça rayonnait, rue de Rivoli d'un côté, et puis de l'autre côté, vers la Bastille. Donc en fait, les Halles, ça occupait le centre de Paris. Et mon père y travaillait. Mon père avait deux surnoms d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas de nom. Voilà, ils avaient des surnoms. Et mon père s'appelait Rose Bonbon, parce qu'il n'avait pas son diable, son camion, si vous voulez, en Rose Bonbon pour pas qu'on lui vole. Ou Cambouis, parce qu'il réparait les moteurs.
Voilà, et vous aviez un surnom ?
Non, moi, j'avais pas un surnom. Moi, j'allais avec mon père, je l'ai fait deux ou trois fois, j'étais petit, mais au chien qui fume. Et on me mettait le matin sur les hauts tabourets devant le comptoir pour une dégustation de soupe à l'oignon en général gratuite, parce que c'était pour les touristes qui, eux, voyaient des forts des Halles qui prenaient, puis un petit gamin qui prenait pour Gavroche. Mais tout ça était une manipulation scénique éhontée.
Qu'est-ce que vous ressentiez, enfant, justement, dans cet univers ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte très vite que vous vouliez écrire, vous vouliez mettre en scène ? Comment ça vous est venu ? Dans Punch, on cherche ce fameux moment déclic pour arriver aux rencontres de Brangue, mais comment vous en êtes arrivé à devenir metteur en scène ?
Bah, écoutez, très concrètement, il y a d'abord eu la lecture, et ça vient peut-être sans doute de ma mère qui avait un fantasme, cinématographique, qui était vraiment un féru de cinéma, et le cinéma, dans ces périodes-là, était quand même un cinéma de haute qualité, donc elle avait cette culture, et je me souviens, moi, théâtralement, hein, simplement, de ma mère chantant dans un radio-crochet. L'accordéoniste de Piaf. Et je crois que ça, c'était le premier impact.
On a bien fait de citer Edith.
Oui, voilà. Alors la famille, c'était une mythologie. J'ai été à l'enterrement d'Edith Piaf, accompagné par une immigrée espagnole. Oui. Voilà, bon. Et donc, voilà. Donc, j'étais dans cet univers. Alors, il y a eu d'abord cet impact un peu représentatif de maman. Évidemment, c'était un peu choquant. Pour un gamin, vous voyez sa mère. Et puis, je ne sais pas quelle a été l'espèce d'envie de lire. Moi, je sais une chose qui est très, très étonnante et même assez comique. C'est que à l'école primaire où j'étais, j'étais brillant simplement parce que chez moi, on parlait français. Et que mes petits co-religionnaires, eux, parlaient des langues de Rastaquer. Et donc, ils étaient beaucoup moins forts que moi. Donc, je trouvais une légitimité à l'oral. Hein, plus qu'à l'écrit où j'avais du mal. Parce que
mais à l'oral, vous étiez déjà bon.
Oui.
En poésie, par exemple ?
Non, parce que je ne savais pas que ça existait. Mais on ne sait pas.
Mais à l'école, on récite des poésies ?
Oui, mais on ne parle pas la poésie pour autant. Donc oui, bien sûr, il y avait ces entrées. Non, le truc, c'est, ça a été un enseignant qui était royaliste. Un royaliste, je ne sais pas comment dire, humaniste, enfin une sorte de pas serré, pas dogmatique. Et alors, il avait décidé de nous faire visiter les monuments parisiens monarchiques, pas les bâtiments républicains. Donc interdit de Panthéon, interdit de Colonne de Juillet, interdit, bon, tout ça, on ne pouvait pas...
Pas trop Bastille non plus.
Non, voilà, non, bien sûr que non, Colonne de Juillet. Et donc du coup, on voyait le château de Vincennes, le château de Versailles, la Sainte-Chapelle, etc. Mais la question n'est pas ce qu'il nous montrait, c'est qu'il nous a déplacés géographiquement. Et en réalité, à partir de là, il y avait un monde ailleurs. Et moi, je sais que ça a été important. Je suis en CM1 ou CM2. Il y a un monde ailleurs. Et donc, ça passe par la littérature. C'est une anecdote que j'ai racontée moult fois. Je n'ai pas de chambre, donc je m'enferme dans un placard. Et dans un placard, je m'aménage un petit coin dans lequel je lis.
Voilà. Vous savez que ça me fait penser aux Enfants terribles de Jean Cocteau.
Oui.
Alors, on va faire une pause pour rentrer ensuite dans le vif du sujet qui est votre travail de metteur en scène, notamment ici, dans ces nouvelles rencontres de Brang. Nous écoutons Bach avec Christian Sciaretti, metteur en scène qui est aussi le président des nouvelles rencontres de Brang. Nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant, dans le salon chinois de Paul Claudel. Restez avec nous. De Bach aujourd'hui, choisi par Christian Sciaretti, mon invité dans Punch. Christian, alors, vous êtes devenu metteur en scène, vous avez eu une enfance avec des hauts et des bas, on n'y revient pas, mais ça vous a quand même rendu curieux, surtout quand vous avez commencé à voyager avec votre professeur de français qui vous a fait découvrir un autre monde. Vous avez fait des études ?
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'au bac, où j'étais là aussi plus brillant à l'oral qu'à l'écrit, notamment en philo. Et quand j'ai fini le bac, ben je me suis inscrit en philo. J'ai fait une licence de philo en double cursus. J'étais à la fois à la Sorbonne et à la fois à la fac de Vincennes, qui était quand même un haut lieu. Moi, j'ai eu Deleuze comme prof, j'ai eu Foucault comme prof, j'ai eu vraiment... C'était incroyable, quoi, Badiou, tout ça. La fleur de la philosophie des années 70, quoi, pour faire vite, enfin, milieu des années 70. Donc j'ai eu ce parcours-là, qui n'avait rien à voir avec le théâtre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la pensée et la littérature, donc alimentée par ces lectures que j'avais faites tout seul, où je m'étais construit tout seul.
Dans votre placard?
Dans mon placard. Alors il faut bien comprendre quelque chose, c'est que seul, ayant accès à la littérature, je l'ai fait naïvement, comme les enfants de milieux sociaux pauvres. Je pensais que la culture était un domaine clos. Donc soit je commençais à lire tout de la lettre A jusqu'à la lettre Z, soit je commençais chronologiquement. J'ai commencé chronologiquement. Donc j'ai lu tous les Grecs, j'ai lu tout, mais je lisais tout, la Bible, tout. Je lisais progressivement tout. Et c'était incroyable. J'avais 15, 16, 17 ans. Et puis je suis arrivé jusqu'au classique, hein, jusqu'au 17e français. Et là, je me suis arrêté parce qu'il y avait les filles. Donc là,
Vous êtes devenu papa?
Non, pas du tout. Je suis devenu amoureux de tout.
Ah, les filles, vous êtes devenu amoureux.
En général, non, c'est mes filles, ça va bien plus tard. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, il y a eu un arrêt. Donc, ce qui fait que ma culture a été constituée beaucoup des Grecs, en gros, jusqu'au baroque. Et ça, c'est important à comprendre. Ma culture profonde, elle est là. Et donc, je vais d'abord philo, je ne m'intéresse pas, et je trouve un travail par hasard, parce qu'il faut bien que je vive, de coursier manutentionnaire dans un festival qui s'appelait le Festival d'automne à Paris, qui existe toujours. Et là, j'ai un boulot de manutentionnaire, et je me retrouve à servir au plateau Peter Stein, Gruber, j'en sais rien, Cantor, Bob Wilson, enfin, je suis, mais au milieu du milieu, je suis dans le milieu le plus fin de la production parisienne.
De nouveau, Christian Scaretti, vous êtes propulsé dans un autre monde, dans un nouveau voyage, et vous vous sentez à votre place.
Je me sens à ma place, oui, mais comme selon mes origines sociales, c'est-à-dire que j'ai à ce moment-là une formation par la philo, je fais du théâtre amateur, donc j'ai une formation d'acteur, j'ai un rapport administratif par le festival, donc j'ai des capacités, je suis un peu un couteau suisse, si je puis dire, c'est-à-dire que je peux tout faire. Donc j'y trouve ma place.
Vous faites des amis?
Ouais, j'ai pas beaucoup d'amis, moi. Non, je me fais des relations.
Des relations.
Ce milieu-là, c'est plutôt ça que des amis.
Oui.
Mais surtout, j'ai des convictions de plateau, j'ai des révélations de plateau, je comprends le théâtre. Je fais à côté du théâtre amateur à Montreuil, un théâtre amateur de belle qualité, donc j'ai le double mouvement. Vous voyez, j'ai le mouvement avec le théâtre amateur de travail de terrain et d'accès à la culture pour le plus grand nombre, ce qui a réactivé chez moi la pensée profonde du service public. Et puis de l'autre côté, je suis dans le milieu parisien le plus achevé. Donc je vis les deux.
Vous faites aussi du théâtre de rue?
Non.
D'accord.
Pour moi, le théâtre, c'est un théâtre en salle. Je sais que ça existe, mais c'est d'abord la littérature. Le théâtre est un art littéraire, et je ne vois le théâtre que dans l'application de la littérature.
Le texte et encore le texte. Mmh. En fermant les yeux, et parfois en ne regardant pas les acteurs, je vous ai observé pendant ce festival, vous fermez très souvent les yeux. Alors parlez-nous de votre métier pour nos auditeurs auditrices qui aiment Punch, pour découvrir aussi un métier que l'on ne rencontre pas tous les jours. C'est quoi pour vous ce métier de metteur en scène aujourd'hui, notamment dans ces rencontres?
Bien, à contrario, c'est à contre-courant de la mythologie artistique, si vous voulez. Les gens de théâtre me fatiguent pour la mythologie qu'ils entretiennent de leur possession artistique et de leur prétention. C'est des gens qui font du bruit dans les pizzerias, c'est des gens qui font du bruit dans les queues de cinéma. Enfin, moi, je ne supporte pas ce milieu et j'ai pas ce rapport-là. Et face à cette propagande artistique avec le fameux mot de créateur que vous sortez tous les trois mots, je veux réhabiliter la question de l'interprète. Je suis un interprète. Donc, ma question à moi, c'est d'aller chercher des textes qui ont leur mystère de forme parfois, souvent leur mystère de fond, et d'essayer de le traduire ou de le rendre dans une logique d'interprétation. Donc ça veut dire que moi-même, si vous voulez, je me considère plus comme un chef de troupe que comme un metteur en scène, parce que le mot est usé, et d'ailleurs le siècle est malade de la mise en scène, surtout politique. Et de l'autre côté, j'ai envie de retrouver, si vous voulez, l'humilité qui est nécessaire au service du texte. Alors à partir de là, si vous voulez, j'ai des champs qui sont plus faciles pour moi, d'expression. Il y a des domaines dans lesquels je me sens plus à l'aise que d'autres, et notamment ceux qui vont chercher la pureté optimum, donc forcément le répertoire poétique.
Mais ce que vous avez fait, nous avons rencontré Phèdre, qui est un classique, mais nous avons aussi rencontré Edith, qui est une jeune femme qui a écrit un texte extraordinaire. Vous pourrez nous en parler en deux mots. C'est justement ça que vous voulez dire quand vous voulez donner de la chance à l'interprétation.
Oui, c'est-à-dire que, si on prend le répertoire, que ce soit Charles Péguy ou que ce soit Jean Racine, moi, ma question, c'est d'abord de faire une école, c'est d'avoir une école du dire. Si on regarde bien et on apprécie ce qu'on a pu présenter, on voit qu'il y a une unité. Et cette unité, elle est pédagogique, elle est de formation. Donc déjà, dire à des acteurs le problème de vos états, de cette lecture un peu antérieure, m'intéresse que relativement. Ce qui m'intéresse, c'est votre capacité langagière, comme un musicien. Et donc d'avoir une unité de langue et de dire. Et on ne dit pas pareil Racine, Claudel, j'en sais rien, Corneille, les baroques.
Les fables de la Fontaine.
Ou les fables de la Fontaine, je sais pas, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a d'une part cette ligne gymnique que j'impose forcément à des jeunes acteurs. L'ensemble est très jeune. Quand vous voyez payer, la moyenne d'âge, c'est 25 ans.
Oui, j'étais étonnée par la jeunesse des acteurs.
Ben, si on veut un avenir, il faut mieux travailler avec la jeunesse qu'avec les vieux. Parce que... Donc je travaille aussi, il y a Francine Berger, elle a plus de 80 ans, donc on voit bien l'écart. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord leur donner les outils de l'humilité de l'interprétation. Ça, c'est une chose. Et puis après, aller chercher des répertoires qui sont principalement poétiques, parce que c'est là où c'est le plus compliqué, c'est là où c'est le plus difficile, c'est là où on enseigne le mieux et où le mystère accompagne la narration. Voilà. Donc ça, c'est leur faire comprendre ça, ce qui rend humble aussi. Bon, ça, c'est une chose. Puis de l'autre côté, c'est ma fréquentation des poètes, et notamment des poètes contemporains, en essayant de faire que la poésie se retrouve au centre du théâtre. Les poètes contemporains. Alors ça, j'ai eu des compagnonnages absolument incroyables, moi, avec Yves Bonnefoy, par exemple, avec Jacques Roubaud, avec Charles Julliez. Enfin, je pourrais faire une litanie.
On a l'impression qu'avec vous, on pourrait inviter Brassens aussi.
Je faisais ça quand je faisais les langagières, il y avait un grand écart et je faisais de la poésie savante en faisant, je parlais d'Yves Bonnefoy, c'est quand même une poésie constituée, mais en même temps je faisais venir Jules Gréco. Parce qu'on était face à une poésie populaire portée avec dignité. Et la question, c'est une question de dignité, donc d'être dans le rapport au lot, en ne misant pas sur ses bas instincts. C'est aussi bête que ça. C'était le cas de Gréco. Maintenant, Gréco elle-même savait qu'elle était interprète, ça ne faisait pas d'elle une poète, une poétesse, qui aurait pu être l'égale d'Yves Bonnefoy. Vous voyez, je travaillais sur cet écart-là, et on pourrait ici, effectivement, vous savez, mais bon, j'ai été directeur du Théâtre National Populaire, il est évident que le Théâtre National Populaire de Villars, c'était à la fois le Cid sur la scène, et en bas du théâtre, ça pouvait être Yves Montand, ça pouvait être Gréco, ça pouvait être Brassens, il l'a programmé, et puis ça pouvait être des balles, dans lesquelles les dames avaient la chance de danser avec Gérard Philippe, et les messieurs avec Maria Callas.
Mais là, vous l'avez fait aussi parce qu'il y avait une représentation pour enfants, Mange-clou,
voilà.
Et il y avait un jeune homme qui jouait de la guitare, et c'était bien d'avoir un musicien. J'ai aimé qu'il y ait un musicien parmi vos acteurs. Je pense que c'est aussi ça qui permet de toucher encore plus de monde.
Oui,
Christian Sciaretti, nous sommes dans ce salon chinois. En quelques mots, avant de faire la deuxième pause, Paul Claudel, pour vous.
En quelques mots, si vous voulez, les Français vivent l'oppression classique. C'est-à-dire que finalement, on dialogue avec un auteur qui est Jean Racine. Et que tout notre héritage baroque, on l'a oublié. Ce qui fait qu'on a cette espèce de rigidité et dans le jeu et même dans l'économie. C'est-à-dire qu'il a complexé des générations et des générations. Et que finalement, on a eu de cesse que de s'en échapper. Il y a eu l'offensive Hugo. Sauf que Hugo, quand il s'oppose à Racine, il écrit toujours en alexandrin. Donc en fait, il garde le complexe. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il faut inventer une dramaturgie qui soit une dramaturgie du déplacement épique, mais qu'on offre aussi une langue, un nouveau vers. Et Claudel, c'est celui qui amène un nouveau vers. Claudel est le plus grand auteur baroque français, en apportant un vers qui n'est pas de l'alexandrin, mais qui est basé sur le souffle et la respiration, et donc une alternative de forme à l'orthodoxie classique. Donc Claudel est une bouée.
J'ai beaucoup aimé les odes aussi dans le jardin, que vous avez mis en scène dans des endroits très variés, sous un arbre, dans une cour, où le poète, le comédien déclame comme un dithyrambe. Cette expression, aujourd'hui, on la voit peu. C'est rare de jouer les odes de Claudel.
Oui, c'est rare d'ailleurs, d'une façon générale, d'affronter franchement les formes littéraires hautes et d'assumer la langue dans le mystère qu'elle offre et qu'elle nous tend, puisque c'est par la langue que vous nommez le réel. Alors on peut dire que c'est rare, mais regardez simplement comment le monde va. Il suffit de regarder tel qu'il est pour savoir que c'est ce qui manque.
On va faire une pause. Encore un peu de Bach avec Christian Sciaretti.
Thank you. C'était Bach avec Christian Scaretti, notre invité dans Punch. Aujourd'hui, nous sommes dans le salon chinois de Paul Claudel. Ce sont les nouvelles rencontres de Brang, situées dans le domaine de Paul Claudel. Nous avons la chance d'avoir le président de ces nouvelles rencontres de Brang et le metteur en scène de ce festival que nous avons eu la chance de vivre. Qu'est-ce que c'est pour vous le Punch aujourd'hui en 2021, Christian Scaretti?
Ah, le Punch, c'est dire non. C'est-à-dire qu'au fait, en réalité, oui, parce que d'abord, le oui n'a pas d'infini, hein, puisque le oui, c'est une soumission, une sorte d'acceptation. Donc finalement, le oui n'a que la définition de la demande, alors que le non est infini, puisqu'il est possible de tous les possibles. Donc moi, mon punch vient de mon refus, mais alors qu'il est donc de plus en plus radical. C'est-à-dire, je préfère me retirer à Brang dans une sorte d'isolation, comme le connut Jacques Copeau lorsqu'il partit à Beaune, près de Dijon, avec sa troupe. Je préfère être dans ce repliement, mais que je ne passe plus de compromis avec la médiocrité ambiante. À partir de là, si vous voulez, on pourra penser que je suis fou, on pourra penser que je suis élitaire, on pourra penser ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, je ne passerai plus de compromis comme je peux en passer avec un rapport à l'art utilitaire, par un rapport à l'art thérapeutique, c'est-à-dire qui vous soigne, de ceci ou de cela. Enfin, les questions sont plus hautes et plus simples à la fois. Et croyez-moi, le public, quand on donne de la qualité, comme on a fait ces jours-ci, il ne s'y trompe pas. Parce que même s'il ne comprend pas, il voit la qualité. C'est-à-dire que l'artisanat d'un travail laisse des traces. C'est comme en cuisine ou comme en vin. D'ailleurs, à partir du moment où on sent que ce qu'on consomme est l'aboutissement d'une élaboration fouillée, ça veut dire qu'elle est respectueuse.
Merci Christian Scaretti. Où est-ce qu'on vous retrouve si on veut prendre contact avec vous? Vous avez une adresse Facebook, les réseaux sociaux, vous avez un site internet?
Non, je n'aime pas ça. Donc j'ai rien. J'ai mon mail, je vais vous le donner, j'ai un numéro de téléphone, j'ai une maison, je peux vous recevoir si vous voulez. Moi je veux bien vous recevoir, on parlera de plein de choses.
Merci Christian Scaretti. Si l'on veut vous trouver, l'on vous trouvera. En tout cas, vous pourrez, chers auditeurs, auditrices, réécouter cette émission sur www.radiocité.ch. Punch, c'est tous les mercredis à 18h, les samedis à 17h. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur ces nouvelles rencontres de Brang sur Internet, sur la toile. Belle semaine à toutes et à tous et surtout, exprimez votre punch.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient. Non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur. Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Radio Cité Genève.
Punch.
Partagez vos déclics, vos défis, vos choix autour de l'emploi.
Punch.
Pour rebondir,
repartir, réussir.
Punch.
Retrouvez Charlotte Lang et ses invités dans Punch sur Radio Cité Genève 92.2 et sur www.radiocité.ch.